Escorpião. Voilà. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki
Jai.
jai. Allez, allez, bon, on est à la page 120, le point 11.4 cette fois-ci. Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il vous plaît? Ah, Dananda.
Ouais.
Ananda.
Hare Krishna Ananda, je commence la lecture.
Hare Krishna.
11.4. Hare Krishna.
Hare Krishna. Bienvenue.
11.4. Ainsi devrions-nous toujours nous efforcer d'utiliser la parole dans le seul but de devenir conscient de Krishna. Telle est l'instruction nectarienne que chérit tout dévot en son cœur. Toutes ces paroles n'en sont qu'un rayon bienfaiteur apportant bonheur et paix autour de lui. Seuls d'autres dévots peuvent apprécier un autre dévot. Telle est la façon naturelle par excellence de contrecarrer l'influence de l'âge de Kali, car plus on savoure le nectar des paroles liées à la conscience de Krishna, moins on a le goût de se quereller pour des peccadilles. Telle est la façon aisée de ne pas se mettre les pieds là où il ne faut pas. En cas de provocation, pourquoi envenimer des situations par des mots blessants ou déplacés? Quand on peut très bien se retenir en se rappelant des paroles de sagesse à la place. Ce n'est pas toujours facile, mais nous devons le faire pour l'amour de garder notre sang-froid. Un dévot que l'illusion n'affecte pas est digne d'être appelé un dhīra. Il faut du sang-froid et une bonne tête sur les épaules pour progresser dans la conscience de Krishna. Si on laisse la colère nous gagner, toute cette quête sublime qu'est la conscience de Krishna sera détruite sur le champ. Évidemment que la conscience de Krishna ne peut être détruite car tout bienfait acquis ne peut être détruit. Mais l'amertume d'un manque de maîtrise de soi momentané peut prendre un certain temps à expier. Vaut mieux chanter et implorer le Seigneur de nous protéger en toutes circonstances et nous pardonner de l'avoir oublié par moments pour des peccadilles typiques de l'âge de Kali. La langue a besoin d'engagement. La conscience de Krishna est parfaite pour elle. En fait, pour la spiritualiser.
Claire, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Om Tasmai Shri Gurave Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Alors, c'est... Moi, j'aime bien le premier paragraphe. C'est dit ici, ainsi devrions-nous toujours nous efforcer d'utiliser la parole dans le seul but de devenir conscient de Krishna. Alors ça, c'est une instruction de Srila Prabhupada, c'est une recommandation. Et ici, on dit, telle est l'instruction nectarienne que chérit tout dévot en son cœur. Est-ce que c'est vrai, ça?
J'ai pas compris la question, c'est la...
Bon, le point 11.4, ensuite c'est dit ici, quelle est l'instruction nectarienne que chérit tout dévot en son cœur? Là, on
C'est quoi
pose la question.
nectarienne? Nectarienne?
Ça veut dire que c'est comme du nectar.
OK.
C'est comme du nectar. Alors, on pose la question, est-ce que c'est vrai, ça?
Dans l'absolu, oui, c'est vrai.
OK.
Et oui.
OK.
Parce que c'est vrai, moi, à titre personnel, quand j'échange pas autour de Krishna ou des choses qui ont rapport à la philosophie Vaishnava, même si c'est des choses très intéressantes, je trouve qu'il manque toujours quelque chose, que c'est incomplet. Par contre, dès qu'on échange sur un divertissement ou autour d'un verset ou comme on le fait là, on est tout de suite, on se sent à l'intérieur, un niveau supérieur. On n'aurait pas envie que ça s'arrête. C'est intéressant. Il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on apprend, même si on relit le même verset tous les jours différemment. Même les commentaires de Srila Prabhupada, on les relit et on se dit, mais j'ai lu ça hier, mais je le vois pas de la même façon. En fait, on n'est jamais dans du répétitif, alors que dans le monde matériel, toutes les conversations, tous les sujets, il y a toujours un genre de boring, quoi. C'est toujours, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Et c'est pas intéressant.
Ouais.
Donc, en fait, c'est vrai que si dans son cœur on chérit, mais c'est pas facile et c'est pas tout le temps le cas. On peut pas tout le temps, et malheureusement, échanger à propos de Krishna. Mais dès qu'on le peut, même indirectement, il faut toujours essayer de ramener les conversations autour de Krishna.
Oui. Alors, il y a, on peut dire qu'il y a deux méthodes qui sont très intéressantes pour être conscient de Krishna. La première, c'est la quoi? C'est quoi? La première
Ben,
méthode.
le mantra, c'est une des plus fortes, parce que on peut l'emmener partout, puis avec, et tout est relié dessus avec le mantra, parce que dans le mantra, c'est comme une clé qui ouvre un état d'esprit divin. C'est le nom de Dieu, c'est notre Krishna dans toutes ses qualités.
Ouais,
Ça,
d'accord. D'accord avec ça. Mais dans les méthodes du service de dévotion, il y en a neuf. La parole, c'est laquelle dans les neuf?
la deuxième, le premier, c'est l'écouter.
C'est ça. Alors, on peut dire que il y a deux méthodes qui sont chères aux dévots. Écouter ce qui a trait à Krishna. Puis la deuxième, bien, si on a écouté tant de choses au sujet de Krishna, puis on n'est pas capable de parler de Krishna, c'est frustrant pour un dévot. Mais un dévot va, des fois, il n'y a pas le choix. Selon temps et circonstances et selon son entourage, ça peut être très, très risqué même de parler de Krishna. Mais, par contre, si un dévot veut vraiment, comment on peut dire, savourer la conscience de Krishna, ben là, automatiquement, ce qu'il a entendu, il va vouloir en parler, avoir des échanges avec d'autres dévots. Et puis ça, c'est le bonheur de la conscience de Krishna. Alors, c'est dit ici, telle est l'instruction nectarienne que chérit tout dévot en son cœur. Alors, en d'autres mots, ce dévot-là, le dévot porte dans son cœur le désir de parler de Krishna. C'est naturel pour un dévot. Et il n'attend que ça. Il va saisir la moindre opportunité qui s'offre à lui de parler de Krishna et il en est très content. Alors, ça, c'est parce qu'il écoute au sujet de Krishna. Le moindre petit mot qui a trait à Krishna, c'est Krishna lui-même en personne qui se rend présent dans la vie immédiate d'un dévot. Et ça, c'est extra, ça. Un dévot peut sentir ça. Alors, des fois, un dévot peut être mis en difficulté par des non-dévots, mais si le dévot veut se défendre par rapport à une telle situation, qu'est-ce qu'il va faire le dévot? Il va
il
chanter.
va donner un point que il a appris dans la, soit dans la Bhagavad Gita ou à travers les enseignements de Prabhupada, qui va défendre, je dirais pas c'est une attaque, là, mais qui va aller directement prendre le point puis le mettre divin, l'affaire, la contradiction, je sais pas comment.
Ouais, la situation difficile. Alors, il y a une histoire de dévots, là. À un moment donné, il y avait des dévots en Sankirtan, puis il y avait des non-dévots qui voulaient s'en prendre aux dévots, puis ils étaient menaçants, et c'était pas drôle, là. Alors, les dévots ont chanté la prière au Seigneur Nrisimhadev, puis les non-dévots se sont en allés. Ça aussi, c'est une miséricorde de Krishna, des fois. Alors, un dévot, quand justement il est mis en difficulté, il va prendre refuge du Seigneur Nrisimhadev, et puis advienne ce qui adviendra, et il dépend de Krishna. Alors, cependant, un dévot devrait avoir une certaine compréhension de la protection que Krishna peut lui donner. Alors, le dévot peut être complètement, comme on dit en québécois, peut être complètement dans les patates en ce qui concerne la protection désirée de Krishna. Alors, on va expliquer un peu plus dans le sens que le dévot qui s'attend, oh, je vais chanter Hare Krishna, je vais chanter Nrisimhadev, puis il n'y a aucun mal pour mon corps qui peut arriver. Ça, c'est très néophyte et c'est très, très, comment on peut dire, c'est prendre pour acquis que Krishna serait là en personne puis va te protéger.
Mais j'y crois, ça.
Oui, je sais. On fait un point, là. On fait un point. C'est qu'il peut arriver qu'un dévot soit même assassiné. C'est des choses qui arrivent, ça. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Alors, qu'est-ce que le dévot doit comprendre? À ce moment-là, est-ce que le dévot comment on peut dire? Je veux pas dire une réprimande, mais il va formuler dans son fort intérieur, ben, comment ça se fait que Krishna m'a pas protégé? C'est comme s'il fait un reproche à Krishna de pas l'avoir protégé.
Il y avait d'autres choses pour lui, Krishna.
Non,
Il avait parlé.
ce point-là est expliqué par Prabhupada dans une teneur
OK.
importée de probablement Srimad Bhagavatam, mais c'est expliqué par Prabhupada. Alors, ce que Krishna protège, c'est la conscience de Krishna du dévot. C'est ça que Krishna protège. Alors, le dévot ne peut pas prendre pour acquis, ben, je chante avec Krishna, puis il n'y a rien qui va m'arriver. Il peut arriver quelque chose, mais au point de vue de sa conscience, c'est là que le dévot disons, rester concentré et apprécier que malgré une circonstance difficile, le dévot n'a pas oublié Krishna. Et ça, c'est un succès pour un dévot. Alors, si le dévot, il pense, prend pour acquis, ben, juste à chanter avec Krishna, puis, ouais, mais chanter avec Krishna, comment? Dans quel état
De son cœur,
d'esprit?
avec tout
Pardon?
son cœur et tout, avec tout son cœur et toute sa croyance, je peux rajouter quelque chose pour vous.
Ouais, vas-y.
C'est, j'habitais dans le, couple d'années, j'habitais dans le village ici, puis le monde me disait, va pas dans la plage, je veux dire, parce que j'aimais ça aller 3h30, 4h, marcher sur la plage et faire les mantras. Il a dit, il y a des drogués, ils te volent, tout ça, tu sais. Bah, j'ai dit, si Dieu le veut, ça sera. Alors, je marche sur la plage, il y a du monde qui vient m'approche. Puis tu te vois, c'est des drogués, là, puis ils demandent de l'argent, tout ça. Moi, je leur dis, moi, j'ai pas d'argent à te donner, mais je peux te donner la parole du Seigneur dans ton cœur, tu sais. Puis je parle sur Krishna, à la fin, il me sert, tu veux dire, merci, mon frère, tout ça, veut dire, c'est fort, Krishna, c'est incroyable.
Oui, c'est un beau témoignage, ça. C'est pas tout le monde qui aurait le courage de tourner ça comme ça.
Mais juste à aimer le monde, de voir de voir que c'est quand même des âmes divines et de pas voir le véhicule qui est accumulé toutes sortes de parasites dans sa tête, tu sais, ça te libère. C'est l'amour que tu donnes, le monde change eux-mêmes. C'était vrai.
C'est le dévot dans son cœur de la compassion. Alors, si il peut montrer de la compassion aux âmes conditionnées, le dévot est heureux de ça.
Ah, beaucoup.
Les gens vont apprécier ce que le dévot a à offrir. Alors, c'est dit ici, ce qu'on dit aujourd'hui, là, on parle des paroles d'un dévot. Toutes ces paroles n'en sont qu'un rayon bienfaiteur apportant bonheur et paix autour de lui. Alors, on relit le 11.4. Ainsi devrions-nous toujours nous efforcer d'utiliser la parole dans le seul but de devenir conscient de Krishna. Alors, pour un dévot, c'est comme la différence entre la lumière et l'obscurité. Un dévot, il essaie de se tenir dans la lumière. Alors, c'est la même chose pour les paroles. Les paroles peuvent être dans l'obscurité ou les paroles peuvent être dans la lumière. Alors, comme c'est dit, Prabhupada dit ici, c'est tellement bien dit, nous efforcer. Là, il dit, ainsi devrions-nous toujours nous efforcer d'utiliser la parole dans le seul but de devenir conscient de Krishna. Alors ça, c'est, comme on dit en anglais, là, c'est un wrap-up. C'est Prabhupada qui conclut, disons, ce module-là, le module 11. On pourrait pas dire mieux. On pourrait pas dire mieux. Prabhupada place bien ce point-là et c'est merveilleux. Alors, si un dévot peut parler de Krishna et faire bénéficier quelqu'un d'autre de la conscience de Krishna, c'est parfait. Et puis, s'il peut échanger sur Krishna avec d'autres dévots, c'est encore mieux. Dans un sens, du point de vue du goût. Mais même à ça, prêcher la conscience de Krishna aux non-dévots ou aux non-initiés dévots, ça a un nectar en soi. Comme Prabhupada, quand il est à un moment donné, Prabhupada était malade. Et faire une conférence dans une ville. C'est ça, ça se passe en Inde. Et il y avait des non-dévots qui avaient dit aux dévots, si votre chef ou votre gourou fait la conférence, on va le tuer. C'était un groupe, je pense, qui s'appelle les Naxalites en Inde. Et Prabhupada a répondu au dévot en disant, ben, j'essaie de le dire correctement, mais le message c'était, Prabhupada disait que vaut mieux mourir sur le champ de bataille. C'est glorieux de mourir sur le champ de bataille. Alors, Prabhupada, lui, oui, pouvait avoir un risque, mais Prabhupada, pour lui, c'est même s'il arrive quelque chose, on y va pour la conscience de Krishna. And, comme on dit en anglais, go for it. Et Prabhupada, il a été pour prêcher. Il a fait sa conférence. Et après, ces gens-là, ils ont assisté à la conférence de Prabhupada. Et à la fin de toute conférence de Prabhupada, demandait au dévot de faire un kirtan. Alors, le dévot fait un kirtan, et ces gens-là ont chanté, dansé, je pense même, là, je ne veux pas trop pousser, mais ont chanté avec les dévots. Même s'ils étaient vraiment, disons, antagonistes au départ, c'était la puissance d'un pur dévot de Krishna. sa personnalité, sa puissance personnelle, ce qu'il dégage, ben ça a eu un effet inverse sur ces non-dévots-là. Et puis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, un dévot, il a ça dans son cœur. Que s'il faut parler, ben parlons de Krishna. Puis ça peut pas faire de mal à qui que ce soit. Au contraire, ça peut faire du bien à quiconque va entendre. Alors, comme dans le Srimad Bhagavatam, comme dans le livre de Krishna, Prabhupada, dans certains chapitres, il va citer soit Suta Goswami ou Sukadev Goswami, parce que c'est eux autres qui récitent le Srimad Bhagavatam, non? Alors, il va les citer en disant que un tel dit que quiconque écoute ce récit X, Y, Z va atteindre la plus haute perfection, va atteindre la conscience de Krishna. Et ça, c'est merveilleux. La puissance de Krishna Katha, les sujets qui ont trait à Krishna, c'est extraordinaire. Alors, quand un dévot, en tout cas, moi, je parle pour mon expérience personnelle, là, quand un dévot, par exemple, tu rencontres une certaine personnalité, disons, éminente du monde matériel, des fois, tu vas te demander, ben, comment je vais dealer avec cette personne-là? Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, ça, c'est personnellement, c'est moi, là. Pas tous les dévots qui sont pareils, là. Je veux pas dire non plus que tout le monde devrait faire comme moi. Mais moi, dans une situation comme ça, je me dis, je vais citer Prabhupada. Je vais citer d'après les livres de Prabhupada, puis il arrivera ce qui arrivera. Au moins, j'ai pas spéculé. Tu peux pas faire une conversation. Ben oui, moi, je pense que peut-être que tu te mets les pieds dans les plats dès le moment où tu commences à dévier un peu de la façon de parler qui est consciente de Krishna. La façon de parler consciente de Krishna, ça veut dire tu cites les Écritures, tu cites les autres dévots, tu cites le maître spirituel, disons d'une façon que la personne en avant de toi puisse essayer de comprendre. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, faut que tu y ailles, moi, c'est mon expérience, là, faut que tu y ailles carrément avec une citation. Puis là, ben, ils feront qu'est-ce qu'ils voudront avec la citation. C'est comme ça, je pense. Et, tu sais, c'est comme, par exemple, quelqu'un te pose la question, ben, vous autres, les dévots de Krishna, comment vous voyez la mort? C'est une bonne question, mais c'est large. Un paquet de monde peuvent répondre beaucoup de différentes façons à ça. Mais là, si tu cites, par exemple, la Bhagavad Gita sur ce sujet-là, ben, tu peux pas ben, ben gros te tromper, là. Ça encadre la conversation. Et là, si quelqu'un est pas capable d'accepter les paroles de Krishna, ben là, tu vas le savoir tout de suite. Tu sais, la personne va répondre. Ben, moi, je suis pas d'accord avec. Moi, je pense que, ben là, tu peux lui dire, ben, ça, c'est l'autorité des Védas, c'est la Bhagavad Gita, c'est la parole de Krishna, Dieu en personne. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir de mieux que ça? Et là, s'il veut citer la Bible ou une autre écriture, ça, c'est une autre histoire. Mais ça devrait avoir une certaine harmonie, ça aussi. Et puis, bon, à ce moment-là, tout le monde va apprécier la conversation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste, qu'est-ce que vous venez de dire? Prabhupada a donné plusieurs exemples, veut dire, comment aborder ce sujet-là, veut dire, la mort. Il y a tellement d'exemples, veut dire, c'est juste le choix, ou dépendant de la conversation, comment comment où est-ce qu'on est rendu dans l'échange là. Mais c'est toutes des choses logiques. Je veux dire, même dans la Bhagavad Gita, là, c'est la première chose, c'est sous le champ de bataille. Je veux dire, tous ceux qui sont là, je veux dire, ont jamais arrêté, ils ont jamais, n'ont jamais pas existé, puis n'arrivaient pas à ne pas exister. Ils sont toujours vivants. Je veux dire, de corps, tu laisses le véhicule. C'est comme tellement d'exemples.
Exact. OK, on va continuer si vous avez pas d'autres questions. Alors, on va y aller pour le module 12, les sollicitations du mental. Ananda, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Les sollicitations du mental. Pour ce qui est des sollicitations du mental vacillant, elles se divisent en deux groupes. Le premier consiste en attachement non maîtrisé, avirodha
Priti.
priti, pardon. Et le second en accès de colère né de frustration, virodha yukta krodha. L'adhésion à la philosophie impersonnaliste, Mayavada, la foi en les fruits de l'action intéressée des Karmavadis et la foi en la réussite de divers projets échafaudés sur des désirs matériels, voilà autant de manifestations de l'attachement non maîtrisé, avirodha priti. Les yagnis, les karmis et les échafaudeurs de projets matériels attirent généralement sur eux l'attention des âmes conditionnées. Mais lorsque ces matérialistes ne peuvent réaliser leurs projets et que leurs stratagèmes aboutissent à l'échec, ils se mettent alors en colère. En fait, la frustration des désirs matériels engendre aussitôt la colère.
Aïe.
12. Jai.
Vas-y, s'il vous plaît.
12.1. 12.1. Pour ce qui est des sollicitations du mental vacillant, elles se divisent en deux groupes. Après les tentations du verbe, nous passons au niveau subtil des agitations ou sollicitations du mental vacillant. Celles-ci se divisent en deux groupes, tels qu'énumérés ci-dessous. Mais avant tout autre commentaire, il est pertinent ici de remarquer la nature même du mental, c'est-à-dire sa nature vacillante. Si l'on remonte en arrière de 5000 ans, lors de la récitation de la Bhagavad Gita 6.33-34, Krishna décrit dans un premier temps comment arriver à maîtriser le mental au moyen de la concentration du mental sur les principes du yoga, et Arjuna rejette cette approche en reconnaissant précisément la nature vacillante du mental qui est quasiment insurmontable. Arjuna uvacha yoyam yoga tvaya prokta samyena madhusudana etasyaham na pashyami Chanchal Adva Shitim Shitram. Arjuna Uvacha, Arjuna dit, Ya système, I am ce, Yoga de yoga, Dvaya par toi, Prokta décrit, Samyena en général, Madhusudana au vainqueur du démon Madhu, Etasya de ceci. Aham, je, na, ne pas, pasyami, voix, chankaltat adva, parce que étant agité, shitim, une situation, shiram, stable. Arjuna dit, ce yoga que tu as succinctement décrit, ô Madhusudana, me semble impraticable car le mental est instable et capricieux. Teneur et portée. Arjuna se déclare ici incapable de maîtriser le système de yoga décrit par Krishna dans les versets commençant par les mots Sukhsho, Déchet jusqu'à Yogi Paramaha et donc le rejette. Dans l'âge de Kali, en effet, un homme ordinaire ne peut quitter son foyer pour aller pratiquer le yoga dans la solitude des montagnes ou de la jungle. L'homme est obligé de lutter âprement pour survivre au cours de sa brève existence. Même s'il s'offre à lui une voie de réalisation spirituelle simple, aisément praticable, il ne saura la suivre avec sérieux. Que dire d'emprunter le sentier ardu du yoga que nous décrivons, où l'on doit régler son mode de vie de façon
La
de
façon.
s'asseoir, sa façon de s'asseoir, pardon, choisir minutieusement son lieu de résidence et forcer le mental à se détacher des pensées matérielles. En homme réaliste, Arjuna affirme qu'il est impossible de pratiquer un tel yoga. Et pourtant, les qualités ne lui manquent pas. Il est un guerrier exceptionnel, de sang royal, il a le pouvoir de vivre longtemps, et par-dessus tout, il est l'ami intime de Krishna, Dieu, la personne suprême. Il y a 5000 ans, bien que les circonstances fussent alors bien plus favorables que celles que nous connaissons aujourd'hui, Arjuna refusa cette forme de yoga. Nous nous trouvons nulle part qu'il l'ait pratiqué à aucun moment. S'il en était ainsi il y a 5000 ans, que dire d'aujourd'hui? On considère donc qu'en général, ce système ne peut être suivi par la masse des gens dans l'âge de Kali. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, qu'il puisse y avoir ça et là des exceptions fort rares. Mais ceux qui se complaisent à imiter cette pratique du yoga dans de prétendus clubs et écoles pendant leur temps, perdent leur temps, pardon. Ils ignorent totalement ce qu'est le véritable but de cette discipline. Verset 6.34. Chanchalam immanaa Krishna pramati balava dridam
OK,
tasya.
excuse-moi,
Ah, pardon.
on va demander, voir s'il y a des questions, des commentaires là-dessus. Alors, il y a un mot intéressant qui va être expliqué plus loin dans le texte. Le mot français. C'est dit ici, on dit ici, bon, je le lis d'abord, non? La première phrase, bon, à la page du début, là. Pour ce qui est des sollicitations du mental vacillant, elles se divisent en deux groupes. Le premier consiste en attachement non maîtrisé à Virodha Priti et le second en excès de colère né de frustration, Virodha Yukta Krodha. Alors, ça semble un peu compliqué, mais c'est plus loin, là, dans le texte, ça va être expliqué qu'est-ce que ça veut dire un accès de colère. Alors, ça pourrait être écrit excès de colère et en français aussi accès de colère. Savez-vous c'est quoi la différence entre les deux? Alors,
Voilà.
pardon?
Accès.
Laissez l'axe. Vas-y.
Non, vous êtes accès, puis l'accès, moi je vois les mêmes, c'est le même mot, non?
Non,
Non,
c'est
c'est
laisser
pas.
ouvert, c'est laisser la porte ouverte à pouvoir être tenté par la colère, en fait.
Ça, c'est une façon de le voir. Mais c'est pas ça qui est expliqué. On va le voir plus loin dans le texte. Accès de colère, c'est bien français, et selon le dictionnaire, ça veut dire la montée soudaine de la colère. Alors, c'est différent de excès de colère, ce qui veut dire il y a la colère, mais là, ça déborde. Ça dépasse les bornes, si on peut dire. Mais accès de colère, ça veut dire que soudainement la colère arrive et là, on est en colère. Ce qui fait parfaitement du sens avec ce qui est dit ici, des attachements non maîtrisés à Virodha Priti et le second, en accès de colère né de frustration. Ça veut dire on peut se faire, et c'est souvent ce qui arrive, les gens qui sont attachés vont se mettre, et que ça ne marche pas, leur truc, se mettre automatiquement en colère. Alors, comme c'est expliqué aussi dans la Bhagavad Gita, En contemplant, c'est chapitre 2, verset 62, en contemplant les objets des sens, une personne s'attache. Et lorsqu'il y a l'attachement, il y a l'illusion. Et lorsque l'illusion s'empare de l'intelligence, on redescend au niveau matériel. Mais quand cet attachement-là est frustré, ben là, la prochaine étape, c'est la colère. Alors, beaucoup d'occasions se présentent où les personnes tombent dans le piège. Ils contemplent quelque chose, sont attachés à quelque chose, et si ça ne vient pas à leur goût, automatiquement, ils se mettent en colère. Alors, ils se mettent en colère. Pourquoi? Comment? Ben, ils ont contemplé quelque chose, puis les résultats sont pas à leur goût. Ça, c'est vraiment matérialiste comme mentalité. Et est-ce qu'un dévot est sujet à ce genre d'attachement et colère? On pose la question.
Normalement, non.
Alors, explication, s'il vous plaît.
Ben non, justement, on doit, ça peut arriver parce qu'on n'est pas au niveau supérieur de la dévotion et en tant que dévot, mais on doit contrôler en fait. On doit pas. Si ça peut arriver, il faut le contrôler en fait. Et avec le temps, ben ça n'arrive plus. Avec la pratique, avec le service de dévotion qui se renforce, avec la connexion à Krishna qui se renforce, ça n'arrive plus. Mais au début, c'est clair qu'on le voit arriver en fait, quand ça c'est en train de partir en fait, on le voit arriver. Et jusqu'au moment où on n'est plus sujet parce que on n'est plus attaché, on n'attend plus des choses de ce monde-là, on n'attend plus des fruits de nos actions puisqu'on les offre à Krishna.
C'est
Donc on doit
c'est ça la différence. La
voilà.
Différence, c'est qu'un dévot, il n'agit pas pour lui-même. Le dévot doit être conscient que la conscience de Krishna, ça veut dire agir pour Krishna. Un dévot est un représentant de Krishna par rapport, disons, aux non-dévots dans son entourage. Si les non-dévots savent, puis il y a bien des chances que ça va arriver, là, et ça, ah, celui-là ou celle-là, ah, ça c'est un dévot de Krishna ou une dévote de Krishna, ils s'attendent subtilement à ce que le dévot ou la dévote agisse comme un dévot ou une dévote. Et ils vont avoir la critique facile s'ils sont déçus par le comportement du dévot ou de la dévote. Alors, un dévot, une dévote a une responsabilité aussi d'agir bien, d'une façon consciente de Krishna, parce qu'il représente ou elle représente Krishna, la conscience de Krishna. Et la conscience de Krishna, ce n'est pas une religion. On défend pas une religion, là. C'est un état d'âme. C'est une conscience qu'on est une âme spirituelle, qu'on agit en conséquence. Alors, comme Virginie dit, on n'est pas parfait, parfait. Il peut arriver des hauts et des bas d'un fois, à notre surprise, possiblement. Ça peut arriver, mais un dévot, dans sa mentalité, il essaie toujours d'accepter ses torts et accepter ce qui devra venir pour se corriger par la grâce de Krishna. Alors, le dévot est conscient de Krishna, même s'il est fautif dans une certaine mesure. C'est pourquoi c'est dit, et aussi dans la Bhagavad Gita par Krishna, qu'il faut pas critiquer plus qu'il ne faut. Ça, en fait, c'est pas du tout, là. Il faut pas critiquer des dévots pour leur manque de conscience de Krishna, parce que Krishna dit qu'il va corriger les dévots et très rapidement, les dévots vont être remis sur la bonne voie. C'est par la grâce de Krishna. Alors, faut pas trouver faute inutilement ou plus qu'il ne faut chez des dévots. On peut peut-être voir une certaine faute, mais disons qu'on garde ça pour soi-même. Il n'y a pas besoin de faire un grand plat avec ça. Qui ne se trompe pas en ce monde matériel là, c'est faut pas s'énerver avec ça. Là. Faut pas trouver une excuse. Ah, il a fait ci, il a fait ça.
Mais
chahuter ça sur tous les toits. Who cares?
Qui est-on pour, pas vous, mais qui est-on pour juger du degré de, enfin, on peut constater des choses qui ne sont pas peut-être en conformité que d'autres dévots ont fait, mais qui est-on pour juger, en fait? Parce qu'on doit faire preuve de compassion, on a déjà vu ça dans plusieurs cours. Au contraire, on doit faire preuve d'une grande compassion envers le dévot qu'on voit qui n'est pas, qui est en train de peut-être dévier ou ne plus venir le dimanche au temple ou ouais, qui passe de moins en moins de temps à échanger avec toi et tu vois petit à petit la personne part. Enfin, plein de choses. Mais qui est-on pour juger, en fait? On doit au contraire prier Krishna pour que Krishna puisse raviver le feu de la dévotion dans son cœur, mais quand on fait ça, pour moi, c'est pas des actes de signature de dévot, en fait, d'agir comme ça.
Ouais, effectivement, tu as tout à fait raison. Et justement, on peut pas juger des dévots, je dirais, par le nombre de fois qu'ils vont au temple. C'est pas un critère, ça.
Non, mais j'ai dit ça comme ça, en fait. J'ai dit ça comme ça parce que si, par exemple, on a un bon ami et on va tous les dimanches ou tous les jours avec lui et puis on se rend compte que petit à petit, il nous met des feintes ou des choses comme ça, on peut se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Laisse-moi voir, laisse-moi lui poser une question. Mais ne pas il est déjà en train de partir. En fait, c'est la spéculation. Et on est très sujet à ça rapidement, la spéculation et le jugement. Alors que, on doit être dans l'humilité et la compassion, en fait. C'est les traits qui manquent aujourd'hui beaucoup à beaucoup d'êtres humains, en fait.
Ouais, même dans la société en général, les gens se lancent des briques et des fanales, comme on dit. c'est pas un cadeau. Alors, pour faire preuve de compassion, humilité et compassion, c'est pas de trop. Dans l'âge de Kali. Au contraire, c'est tout à fait, ça peut soulager, l'entourage de bévues ou d'erreurs qui sont pas souhaitables, si on peut dire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je suis dit, après vous, en réalité, on est tous des dévots de Krishna, seulement dépendant de le but, c'est d'être conscient de Krishna. Ça dépend de chacun, de sa conscience, qui est plus aware, comme on dit. C'est ça, plus conscient de Krishna ou moins conscient. Mais on est tous des dévots de Krishna, non? Tous.
Oui, l'âme spirituelle a la conscience de Krishna dans son cœur. Alors, c'est une question. Pour certaines personnes, c'est, comme Prabhupada donne l'exemple, c'est éventer la petite flamme, puis la faire venir une grande flamme. Et d'autres, ben, c'est juste une petite étincelle, là, à peine. C'est tout juste, c'est pas déjà morte, mais il y a une petite lueur d'espoir quelque part. C'est une question d'association avec des purs dévots de Krishna. Alors, c'est comme nous-mêmes, on a besoin de l'association d'autres dévots. Et on n'est pas un îlot solitaire dans l'océan. C'est pas comme ça qu'il faut se voir. Faut se voir comme on a besoin des dévots et s'identifier avec le type de dévots qui sont. Il y a trois genres de dévots. Il y a des dévots plus avancés que soi, il y a des dévots pairs, des dévots au même niveau, des dévots moins avancés, et à qui on peut chercher à donner, montrer compassion et les aider, et d'autres se lier d'amitié, et d'autres écouter et profiter de leurs bons enseignements. On est toujours en relation avec une catégorie ou l'autre de ces trois types de dévots. Et ça, ben, c'est ça la vie de dévot. Profiter de l'association des autres dévots. Et si on ne fait pas ça, ben, quel autre genre d'association qui nous reste? En fait, il n'y en a pas d'association des non-dévots, mais ça peut pas vraiment nous aider d'un point de vue spirituel. Alors, l'association des dévots est très, très importante. Et puis, on en profite quand on a la chance et la bonne fortune de s'associer avec d'autres dévots. Ça nous tient en vie, spirituellement parlant. On peut parler de Krishna. Et comme on dit ici aujourd'hui, j'ai lu ça. Les paroles d'un dévot n'en sont qu'un rayon bienfaiteur apportant bonheur et paix autour de lui. Puis ensuite, avant, on dit, telle est l'instruction nectarienne que chérit tout dévot en son cœur, qu'à savoir que la parole, utiliser la parole dans le seul but de devenir conscient de Krishna. Alors ça, c'est ça la vie de dévot. Avoir l'opportunité de profiter. Qu'est-ce qu'on peut donner Krishna à d'autres et qu'est-ce que d'autres peuvent nous donner aussi, Krishna, dont on a besoin aussi. Voilà.
Comme là, en ce moment, on a des classes avec des dévots. Puis les choses qu'on partage, c'est comme des portes qui nous, ben, des prises de conscience. Ah tiens, regardons ça, c'est vrai ça. Alors on se garde dans la conscience. On s'entraide nous autres. C'est comme on est des sportifs, mais des sportifs spirituels, pour se garder entraînés toujours, pour pas perdre la direction de la vérité. C'est un peu ça les dévots, non? C'est comme un team, là. Ben, tout le monde est dedans, là, mais il y en a d'autres qui vont jouer souvent, là.
Alors, tout le monde est dans le même bateau, le bateau de la conscience de Krishna. C'est juste que des fois, il y en a qui disparaissent, mais on sait où ils s'en vont. Ils retournent à Krishna, ou ils reprendront un autre corps, puis ils vont le continuer à développer la conscience de Krishna. Mais c'est positif d'un bout à l'autre, par la grâce de Krishna. Alors, c'est...
J'essaie d'imaginer, Prabhu, on n'a jamais eu de début. Alors, j'essaie d'imaginer combien de milliards et de milliards de milliards de vies qu'on a dû avoir avant d'arriver ici, là. Des milliards. C'est comme inimaginable. C'est une opportunité qu'on a en ce moment de, si on loupe ça, là, on ne sait pas la prochaine vie si on va être dans un corps humain avec de l'intelligence assez pour voir tout qu'est-ce qu'on a appris dans cette vie. Tu veux dire? Alors c'est comme, puis on est immortel, alors ça peut durer combien de temps? Qui sait? Des milliards et d'autres milliards et d'autres milliards de vies encore.
Oui, mais le point aussi, c'est qu'on doit, dans une certaine mesure, être consolé par le fait que Krishna est dans notre cœur et il voit exactement qu'est-ce qu'on désire. Alors, si on désire être conscient de Krishna, Prabhupada dit, Krishna va nous aider. Et si on désire l'oublier, Krishna va nous aider à l'oublier aussi. Alors, ça va dans les deux sens. Alors, un dévot doit avoir confiance que peu importe qu'est-ce qui arrive, pour le dévot, c'est d'être conscient de Krishna. Puis la base de la conscience de Krishna, c'est quoi? C'est de toujours se rappeler de Krishna et ne jamais l'oublier. C'est la base. Alors, peu importe qu'est-ce qui peut arriver pour un dévot ou dans la vie d'un dévot, le dévot, c'est ça. Il veut se rappeler de Krishna. S'il a la chance, parler de Krishna, entendre parler de Krishna, se souvenir de Krishna. C'est la base d'une vie consciente de Krishna. Et alors, s'il y a d'autres dévots, c'est le bonheur pour un dévot. Ah, c'est pour ça,
Excusez.
OK. C'est pour ça. Oui, vas-y.
Non, excusez. Je vous écoute.
OK. Alors, c'est pour ça, il y a un programme spirituel au temple qui fait que des dévots peuvent se réunir matin et soir. Il y en a qui peuvent pas être là le matin, ils peuvent peut-être être là le soir, mais pas le matin. Ça dépend des dévots. Et ça peut être aussi une époque de vie où un dévot était à plein temps dans le temple. Alors, là, un dévot plein temps dans le temple, il y a toutes les opportunités. Et là, le matin, et là, le soir, et là, dans le milieu, tout. Ils vont en sankirtan. Ça, c'est la grosse extase. Et il y a une relation entre les dévots qui se crée et qui se maintient. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui vient de m'arriver. J'allais au temple, dans l'époque où j'allais au temple, j'étais là régulièrement, un dévot plein temps. Il y avait un monsieur indien qui, je peux dire qu'il m'aimait pas mal et qui aimait mon association. Puis on se parlait. Puis c'était pas long notre affaire. C'était juste comme un petit salut, bonjour, mais peut-être pas grand-chose de plus, mais il y avait une relation comme ça. Alors, avec le temps, j'ai quitté le temple pour raison d'avoir une famille et tout le kit, là. Et puis il y a beaucoup d'années qui se sont passées que je pensais même pas à cette personne-là. Alors, la semaine dernière, il y a eu une opportunité où j'ai pu revoir cette personne-là. Et lui aussi m'a reconnu. Alors, quand il m'a vu, il me dit, parce qu'il est anglophone, là, il me dit, « I know you ». J'étais dans un restaurant, ça, où on avait été. Il dit, I know you. Et moi, je l'ai, j'étais juste à le regarder, j'étais pas sûr. Il me semble que son visage me dit quelque chose. Et lui, il a ouvert la conversation, il dit, I know you. Et là, il est passé devant moi. Puis je lui dis, I know you too. Que moi aussi, je te connais. Et puis, là, il essayait de trouver où c'est qu'on s'était vu. Il dit maintenant, en anglais, là, il dit, j'ai maintenant 90 ans, qu'il me dit. Alors, c'est normal qu'il va essayer de chercher dans ses souvenirs, là, où est-ce que j'ai vu ce visage-là, en quelque part. Alors, moi, je lui dis, Iskon, tu sais, le temple. Puis il n'y avait pas de l'air à allumer là-dessus. Mais à la fin, quand on est sorti puis que lui aussi est parti, nos visages se sont... nos yeux se sont recroisés. Puis là, il a souhaité bonne soirée à nous autres. Mais il y a des relations comme ça qui se créent avec des personnes conscientes de Krishna. Puis c'est l'arrangement de Krishna. C'est l'arrangement de Krishna. Et ces relations-là entre dévots, parfois ça peut faire toute la différence pour qu'une personne dans son fort intérieur trouve un encouragement qui l'encourage à poursuivre la conscience de Krishna. Et ça, c'est vraiment, c'est la grâce de Krishna, ça. C'est pas évident que tout le monde va toujours avoir une flamme bien flamboyante, mais des fois juste voir un dévot que tu peux écouter et peux parler avec, ça va vraiment t'encourager. Ça va vraiment te, comme on dit en québécois, ça va te remonter le moral. Et ça, c'est la grâce de Krishna via les relations entre dévots. Et ça, c'est super. C'est comme il y a un dévot qui vient de quitter ce monde, là, il y a à peu près 2 semaines. Il a quitté ce monde le 7 avril. Là, on est quoi aujourd'hui? Le 22. Ça veut dire que ça fait 15 jours. Ça fait 2 semaines qu'il est parti. Un disciple de Prabhupada. Président du temple de Salt Lake City, dans le Utah. Un dévot que j'ai jamais connu personnellement, personne à personne, mais j'ai écouté un peu de classe de lui. Ce dévot-là, ça a cliqué avec moi. C'est un dévot que j'admire. Et puis, même s'il a quitté son corps, je vais continuer à penser à ce dévot-là. Pour moi, c'est un modèle, ce dévot-là, comme disciple de Prabhupada et comme dévot de Krishna, tout simplement. Et puis, c'est merveilleux. Alors, c'est encourageant de penser à des personnes qui sont conscientes de Krishna et qui nous inspirent à être conscients de Krishna ou à demeurer conscients de Krishna. C'est la puissance de l'association des dévots comme telle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste sur ce dévot-là, j'ai lu moi aussi dessus quand il a quitté ce monde. Puis il y a beaucoup, beaucoup de personnes qu'il a influencé. Il était bien aimé. J'ai vu des petits. Je le connais pas, mais j'ai vu que le monde disait que des belles choses sur lui. Comment il a donné, veut dire, l'énergie à beaucoup de monde sur la conscience de Krishna. Je voyais.
Ouais, là on parle de Charu. Charu
Pense que
Das.
oui, il est mort au début de du mois là. Il
Ouais.
passait sur Facebook là, tout ça là.
Ouais.
J'ai vu ça.
Charu. Charu Das. Vraiment un bon dévot. Moi, ce dévot-là, quand j'ai écouté une classe de lui, je me disais, tous les dévots dans ISKCON devraient être comme, tous les présidents de temple de ISKCON devraient être comme lui. Ce serait merveilleux, le mouvement serait une merveille. Pas que le mouvement est pas bon, non, mais le mouvement est bien. Mais d'avoir des dévots qui sont super bien, ah, c'est merveilleux. C'est extra. Alors voilà. Autre question, commentaire? Alors là, juste pour revenir sur le sujet, là, on est en train de, le sujet, c'est de parler du mental vacillant, la nature vacillante du mental. Mais pour un dévot qui est relativement, qu'on dirait, néophyte, là, je vise personne, là. Aussitôt que le sujet du mental arrive sur le tapis, c'est comme un peu effrayant. Oh, le mental, c'est cette grosse bête qui fait juste à sa tête, qui est difficile à contrôler, etc. Et même pour Arjuna, il rejette le système de yoga que Krishna a proposé. Alors, où est-ce que ça s'en va pour arriver justement à la maîtrise du mental, que d'une façon ou d'une autre, pour un dévot, il faut arriver à... Il n'y a pas le choix pour un dévot. Comme c'est dit dans la Bhagavad Gita, le mental peut être aussi bien l'ami que l'ennemi de l'âme conditionnée. Alors, c'est ce que nous verrons dans un prochain cours. Même heure, même poste. C'est ce qui s'en vient. Et il n'y a pas de quoi... comment on peut dire? Il n'y a pas de quoi être nerveux avec ce sujet-là. Et ce ne sera pas la première ni la dernière fois qu'on va entendre parler de ce sujet qu'est le mental. Ça fait partie en particulier du chapitre 6 de la Bhagavad Gita. Et on va lire, là. Ça va être, les lectures qui s'en viennent vont plonger dans ce sujet-là. Et c'est bien. Et c'est toujours bon de traiter de ce sujet-là. Alors voilà. C'est ça pour aujourd'hui. Avez-vous d'autres commentaires ou questions?
Juste le mental pour vous avant de partir.
Oui.
Moi, j'ai le mental comme il y a deux voies dans mon mental. Un qui veut faire du négatif et l'autre, tu sais pourquoi, là, tu sais? Est-ce que c'est le même mental qui... Il y a quelque chose qui se parle, là. Quelqu'un qui parle à quelqu'un, là, dans la tête, là. Tu dis, pourquoi tu fais ça, là? Je sais pas, là, c'est l'intelligence avec le mental ou le mental et le mental?
Le mental est ce qu'il est. Et Prabhupada explique le mental, la nature du mental, c'est d'accepter quelque chose, accepter et rejeter. Alors, le mental propose quelque chose. Puis là, on va délibérer un petit peu. Des fois, on n'a même pas le temps de délibérer tellement le mental est fort que c'est... L'intelligence est dépassée, puis c'est le mental qui prend le dessus. Alors, l'idée, c'est que il y a la voix du mental, il y a la voix du faux ego, mais la voix qu'il faut mettre par-dessus tout ça et qui va aplanir, c'est la voix des instructions du maître spirituel ou les instructions de Krishna ou le Mahamantra. Et ça, alors, il y a une alternative positive que nous offre la conscience, la philosophie, la conscience de Krishna. Alors, c'est là-dedans qu'il faut s'absorber. Alors, l'idée, c'est que si on met les choses un petit peu en perspective, si c'est une bonne façon de s'exprimer, tu sais, comme par exemple, t'écoutes, mettons, des matchs de sport, mettons, la télévision sur un sport quelconque. Il y a beaucoup que c'est des statistiques. Ah oui, un tel, il y a tant de buts, puis il y a tant de ci, puis il y a tant de ça, etc., etc. Mais pour le mental a des milliers, si c'est pas des millions de pensées qui gravitent ou qui gravitaient autour de la gratification des sens. Alors, si on veut disons, être noyé dans ce genre de pensée-là, on peut. Mais parce qu'on accepte de pratiquer la conscience de Krishna, on ne veut pas se laisser noyer dans ce tourbillon-là. On veut être conscient de Krishna. Et à ce moment-là, il faut prendre les moyens pour. Alors, l'idée, c'est on peut se mettre en perspective, là, que on se dit, si je devais quitter mon corps maintenant, où est-ce que je m'en irais? Où est-ce que mon mental m'amènerait à une autre destination matérielle? Ou l'autre cas, c'est où est-ce que mon âme m'amènerait, qui est de retourner à Krishna? Avec justement un mental qui est conscient de Krishna. Tu sais, le mental avec plein d'idées matérielles, là, c'est comme avoir deux grosses valises remplies de ciment, là. Puis t'as les mains collées au poignet. Alors, tu peux pas circuler bien, bien vite avec ça. C'est la défaite. Où est-ce que tu t'en vas, là? Mettons, t'as une valise de 50 livres plein de ciment, puis l'autre main pareil. Puis tes mains sont collées avec ça. Tu t'en vas nulle part, là. Tu sais, tu vas être fatigué. Ça marche pas, là. Alors, faut que tu aies les mains libres. Et avoir les mains
Pas
libres,
d'attachement.
pour avoir les mains libres, Prabhupada explique ça dans Bhagavad Gita. Pour avoir les mains libres, et Prabhupada donne une analogie que l'âme conditionnée a les mains liées et les pieds liés. Alors, pour délier ses mains et ses pieds, ça prend une personne qui a les mains libres. Et la personne qui a les mains libres, c'est un pur dévot de Krishna. Ça prend l'association d'un pur dévot, ça prend ses instructions. Et là, à ce moment-là, on peut penser à obtenir un certain affranchissement du conditionnement matériel. Mais tout ça, c'est dans nos mains à nous aussi. C'est nous qui avons un choix à faire. Soit on choisit Maya, ou soit on choisit Krishna. Alors, si on choisit Krishna, ben à ce moment-là, c'est le package deal d'un bout à l'autre. Et justement, ce que nous étudions depuis un bout, mantra 1 de Upadeshamrita, c'est maîtriser maîtriser les attends une minute là. Vacha, c'est les paroles. Maîtriser les paroles. Manasa, maîtriser le mental. Krodha, maîtriser la colère. Jiva, maîtriser la langue. Udara, maîtriser l'estomac. Pasta, les impulsions sexuelles. Tout ça fait partie du mantra 1 de Upadeshamrita. Et c'est important. Ça, c'est le package deal. Si on laisse tout au petit bonheur, ben, ça va être le petit bonheur, mais si on lit les livres, on essaie de s'absorber. Krishna nous demande pas, là, de courir le marathon, là. Tu sais, genre, en 5 minutes, tu fais 10 000 mètres, là. Krishna nous demande pas ça, là. Krishna, il sait très bien c'est quoi notre capacité. Il nous aide en nous donnant la connaissance, le souvenir de ce que nous devrions. Krishna, il dit, je donne l'intelligence par laquelle on peut venir à moi, là. Et ça, c'est pratique, ça. Krishna, il donne, Krishna, il est là, dans le cœur de chacun, de ses dévots. Et peu importe où est le dévot, peu importe sa circonstance, Krishna est là pour aider le dévot et faire plaisir au dévot, comme il sait le faire. Alors voilà. C'est ça pour aujourd'hui. Alors, des fois, entre dévots, qu'est-ce qui fait plaisir aux dévots? Mettons, là, quand il y a une fête de Krishna, puis là, les dévots vont au temple, puis là, OK, on passe, mettons, un jeûne, et puis l'arti et tout ça. Puis là, quand ils arrivent dans la salle de prasad, dites-un, c'est super de bon prasad. Là, c'est le monde spirituel dans ton assiette, là. C'est super. C'est extraordinaire. Alors, comme disons, on peut, ça dépend qui on est, et on peut manger comme on mange n'importe quoi, comme il y a bien du monde qui dit, ben, moi je m'en vais chez Krishna pour goûter à la bouffe. Pour eux autres, c'est de la bouffe. Mais pour un dévot, ça devrait même pas exister dans son esprit, ça. C'est pas de la bouffe. C'est du prasad, c'est la miséricorde de Krishna. Krishna a goûté à cette nourriture-là personnellement. Et il nous donne les reliefs de l'offrande. C'est ça qui est merveilleux. Alors, pour un dévot, savourer le prasad, puis la prière au prasad, ça dit, maintenant, prenons ce prasad dans notre pleine satisfaction. C'est ça. Et rendons grâce à leur Seigneurie, Shri Radha Krishna, et demandons l'aide de Gornitai. C'est ça la mentalité d'un dévot. C'est pas, il est pas là pour juste bouffer, là. pour savourer le prasad, la miséricorde de Krishna. Et le prasad, qu'est-ce que ça est fait? C'est que ça aide justement, ça contribue énormément à la maîtrise des sens. Parce que si la langue était permise de se procurer n'importe quoi, on pourrait pas arriver à maîtriser les sens. Mais on contrôle la langue en ne lui donnant que du prasad, la nourriture offerte à Krishna. Mais comme Prabhupada dit, même si c'est du prasad, c'est moi qui le dis dans mes mots, là, mais le message est le même, on doit pas abuser. C'est pas parce que c'est du prasad qu'on mange trop, puis qu'on perd la maîtrise des sens, là. C'est, on mange à notre satisfaction, et puis c'est correct. Alors, ce qui est la satisfaction d'un dévot, ça peut être trop par rapport à un autre dévot. C'est comme il y a un dévot au début du mouvement Brahmananda. Je sais pas si vous avez vu Brahmananda, là. C'est un dévot qui fait dans les 300, 350 livres, là. Alors, pour lui, c'est pas deux chapatis pour lui, là. C'est une dizaine de chapatis pour qu'il mange à sa faim. C'est du prasad. Alors, est-ce que Brahmananda mangeait trop? Ça, c'est pas de nos affaires. Mais l'idée, c'est que si lui a faim et mange à sa satisfaction, puis ça lui prend 10 chapatis, c'est correct. Il n'y a pas de trouble. Puis un autre, ben, tu sais, c'est, en tout cas, tout maigrelet, puis un chapati, c'est quasiment trop pour lui, ben, c'est ça aussi. Alors, peut-être qu'il en mange une moitié ou trois quarts, puis il est satisfait, ça c'est correct. Dans la mesure où les gens sont satisfaits, et Krishna comprend tout ça, Krishna voit ça, et puis c'est correct comme ça. Alors voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Prabhu.
Prabhu.
Prabhu. Prabhu. Beaucoup de
merci
choses
aujourd'hui.
Avec
Krishna.
Beaucoup
de choses.
Merci beaucoup,
Avec Krishna. Allez, bon. Allez, bonne
semaine. Bonne
semaine. Bonne semaine. Bonne fin de semaine. Bonne semaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci. Allez, Krishna. Jai. Allez, bon. Jai.